Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé, cette fois-ci à Santexpo, le grand rendez-vous annuel de la santé et du médico-social. Il est considéré comme le berceau du numérique en santé de demain, au cœur de la recherche et de l'innovation. C'est Paris Santé Campus et son directeur général, le professeur Antoine Ténière, est sur notre plateau. Un autre médecin, Romain Guyot, anesthésiste à Lausanne, a fondé la start-up Moebius, plateforme qui utilise l'IA pour améliorer la consultation préopératoire, sorte de Waze de l'anesthésie. Lui a créé des écouteurs qui écoutent le cerveau, sorte d'électroencéphalogramme continu qui peut diagnostiquer certains troubles neurologiques. C'est Hugo Dean, président fondateur de Naox Technologies. Enfin, cette marque est associée au PestPerson, mais elle a su se réinventer pour le bien-être et la santé grâce à ses objets connectés, ses Terrayons, et sa directrice marketing Anne Vandeux-Candelaer va clore notre émission. Et merci bien sûr à notre partenaire BPI France. Check-up Santé, c'est parti. Antoine Ténière, bonjour.
Bonjour Fabien Guèze.
Alors vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur, vous êtes chercheur, vous avez cofondé le premier département universitaire français consacré à la simulation en santé, Illumins, à Paris. Vous avez travaillé au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et enfin, en 2021, le gouvernement vous a nommé DG de Paris Santé Campus. J'ai raccourci votre CV, sinon ça prenait toute l'émission. Alors Paris Santé Campus, c'est vraiment le temple de la santé numérique?
Oui, c'est l'ambition effectivement que le président de la République a mis dans ce concept d'écosystème innovant qui va rassembler de très nombreux acteurs pour accélérer l'innovation, faciliter des synergies, qu'ils soient publics ou privés, pour inventer le système de santé de demain grâce au numérique. On le voit avec l'intelligence artificielle, les outils basés sur la donnée, les plateformes et la façon au quotidien dont tout ça peut permettre d'améliorer notre système de santé.
D'accord, mais quelle est sa mission principale ?
Alors la mission principale, c'est d'accueillir des acteurs et de faciliter l'innovation. Donc au quotidien, ce sont 1500 personnes qui se retrouvent chez nous, 5 instituts de recherche, 80 start-up, 130 organisations en tout que nous animons et qui vont chacun avancer dans leur domaine, mais que nous faisons se rencontrer parce qu'ils ont intérêt à porter des projets ensemble.
D'accord. L'originalité aussi, c'est l'association du public et du privé.
Absolument.
Ce qui n'est pas toujours évident.
Exactement. Travailler main dans la main, dans une vraie logique de synergie, c'est extrêmement important. Et en ce sens, c'est l'état d'esprit que nous diffusons au quotidien sur Paris Santé Campus. Les acteurs qui sont chez nous sont là parce qu'ils ont compris que 60% des start-up dans la santé viennent de l'académique et que les chercheurs, de leur côté, peuvent aussi valoriser leurs découvertes en créant des entreprises et des produits qui vont changer vraiment le cours de la santé.
Alors je vais citer quand même les partenaires publics, c'est l'INRIA, c'est l'INSERM, c'est l'université PSL, c'est le Health Data Hub et l'agence du numérique en santé.
Absolument, ce sont des partenaires et des membres fondateurs tout à fait essentiels pour la France et pour le système de santé et qui ont décidé de se mettre ensemble pour accueillir à la fois des équipes de recherche et de développement autour du numérique, mais également des entreprises, ce qui est tout à fait nouveau dans notre écosystème français.
Oui, ça n'a pas l'air d'être évident, non, de manière générale, d'attirer des talents. Notamment les talents de l'e-santé qui sont un petit peu sollicités un peu partout.
Alors ce qui est important, c'est d'arriver à faire passer justement le message que on peut aller très vite quand on est seul, mais quand on est ensemble, comme au sein de Paris Santé Campus, on ira beaucoup plus loin. Les enjeux qu'il y a aujourd'hui sur l'accès aux soins, sur des questions de santé publique, la santé mentale, la prévention, sur des questions d'organisation pour les hôpitaux, etc., font qu'on a besoin de rassembler ces acteurs pour trouver des solutions ensemble. Le meilleur exemple, je trouve, c'est ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Face à une urgence épidémique, tout le monde s'est mis ensemble et on a trouvé des solutions rapidement. L'objectif, c'est d'arriver à pérenniser cette dynamique sur le long terme et débarrasser de cette urgence épidémique.
Alors, Paris Santé Campus, c'est un incubateur qui incube des startups. Qui a l'honneur d'être incubé par Paris Santé Campus? C'est quand même un peu le Graal quand même d'être incubé par Paris Santé Campus.
Oui, c'est un incubateur et pas que, parce que nous avons des entreprises qui sont à différents moments de leur croissance. Donc on a effectivement des jeunes entreprises, mais on a des entreprises qui sont un peu plus matures, d'autres qui sont déjà à l'international. Mmh. Et donc on mélange en fait ces acteurs avec des programmes spécifiques en fonction de leur moment et de leurs besoins, mais aussi des programmes communs. Donc c'est 80 startups qui sont chez nous, qui sont sélectionnées par un comité de sélection. Les entreprises peuvent tout à fait candidater sur notre site internet et elles sont analysées et elles viennent présenter devant un comité de sélection qui comprend nos membres fondateurs, des experts, nos grands partenaires également, MGEN, Doctolib, Janssen et puis Servier, qui vont analyser tous ces projets et définir s'ils peuvent rentrer rentrer dans l'écosystème. On a aujourd'hui en fait un peu plus de 2 ans d'expérience et donc quelques entreprises qui ont déjà bien grandi, qui sont même déjà sorties, parce que quand elles se mettent à recruter, qu'elles ont fait une belle levée ou qu'elles ont été rachetées, elles ont besoin de sortir de l'écosystème et elles deviennent des alumni finalement de Paris Santé Campus.
D'accord, donc c'est à peu près 80, c'est ça, entreprises qui
aujourd'hui,
sont...
Aujourd'hui, c'est 80 entreprises, voilà.
Oui. Et est-ce qu'on a des retours sur les entreprises qui ont été déjà incubées, qui sont sorties de PSC, de Paris Alors, Santé
oui,
Campus.
Oui, comme je le disais, on a quelques belles réussites. Donc 2 ans, c'est court pour la vie d'une entreprise comme ça. Mais on peut citer Pozos, par exemple, qui est une entreprise sur la sécurisation des prescriptions qui a fait une belle levée de fonds. Clinitix, également, qui a été racheté par Cegedim. Et beaucoup d'autres. Avatar, qui est encore chez nous, qui grandit bien et qui développe des outils pour la modélisation 3D pour la chirurgie. AxLife, Biocortex, qui sont des entreprises qui travaillent pour l'une dans la prévention cardiovasculaire et pour l'autre dans la gestion des données de biologie pour la recherche clinique. Autant d'exemples finalement de grands succès qui seront les champions de demain.
Alors vous êtes, on le sait, hein, Paris Santé Campus, c'est un petit peu le temple de la santé numérique. Est-ce qu'on est vraiment leader de la santé numérique par rapport aux autres pays européens et dans le monde ?
Alors l'objectif, c'est de le devenir et pour ça, on en a l'ambition. C'est un premier point de départ qui est essentiel. La France a beaucoup de force en la matière. Il y a un héritage et une expertise médicale qui sont tout à fait remarquables. Il y a la volonté justement à travers des programmes d'ampleur et je voudrais notamment saluer le plan Innovation Santé qui a été mis en place en 2021 avec 7,5 milliards de financement en total pour arriver à donner une vraie dynamique sur l'innovation en santé, que ce soit les biotechnologies, les biothérapies, le numérique bien entendu, les maladies infectieuses émergentes, et puis l'intelligence artificielle qui arrive maintenant et qui est un vrai accélérateur. Donc on a toutes les possibilités, on a effectivement beaucoup de données, je le disais tout à l'heure, et puis des cadres européens qui sont des cadres de développement absolument essentiels quand on veut se comparer aux géants que peuvent être les États-Unis ou la Chine. Donc c'est à nous maintenant de se servir de ces outils-là et puis de retrousser les manches. C'est ce qu'on fait au quotidien avec les entrepreneurs et les chercheurs pour vraiment faire de la France un leader dans ce domaine.
Et la France à l'intérieur de l'Europe, donc est-ce que Paris Santé Campus travaille aussi à l'Europe et à l'internationalisation des entreprises qu'elle incube ?
Alors on travaille évidemment avec cet échelon de référence qui est l'Europe, à la fois parce que l'Europe sur la santé se dimensionne de façon extrêmement rapide, notamment depuis la crise Covid. On l'a vu sur les achats de vaccins, on l'a vu sur l'évaluation des médicaments, on le voit aujourd'hui sur la mise en place d'un espace de données de santé européen et en plus des textes qui régissent à la fois le RGPD et l'IA Act qui vont être absolument essentiels. Donc on a déjà ces collaborations, on a d'ailleurs des incubateurs communs avec la Suède où on accueille des entreprises suédoises. On est en train de réfléchir à des dispositifs similaires avec l'Allemagne et que ce soit sur le plan de la recherche, de l'entrepreneuriat, de la régulation ou de l'innovation stratégique, l'Europe est un échelon absolument essentiel et qui est vraiment impliqué dans notre réflexion quotidienne.
Eh bien, bravo pour ce que vous faites, Antoine Ténière. Merci beaucoup. On va à présent accueillir Romain Guyot qui est président fondateur de Moebius. Romain Guyot, bonjour.
Bonjour.
Alors décidément, on est saisi, c'est une spécialité inspirante qui mène à tout.
Ah oui,
c'est une spécialité. Après, le professeur Antoine Ténière, qui est aussi anesthésiste. Alors, vous êtes anesthésiste à Lausanne, c'est bien ça ?
Oui, je suis anesthésiste au centre universitaire de Lausanne.
Oui.
Le CHUV, un gros hôpital, le plus gros hôpital universitaire de Suisse.
Oui, donc vous êtes parti de France pour
pratiquer... Oui, voilà. J'étais anesthésiste français.
Ça reste l'Europe,
départ,
ça reste francophone.
Voilà, ça reste l'Europe et voilà, envie de changement.
Alors, donc vous dirigez donc la société Moebius Analytique que vous avez fondée. L'anesthésiste, en fait, c'est celui qui va voir le patient avant une intervention et qui va décider si, en fait, il est apte à se faire opérer. On est bien d'accord ?
Exactement. Alors, la spécialité d'anesthésie-réanimation en France, elle est devenue anesthésie-réanimation et médecine périopératoire. On prend en charge de plus en plus de malades.
Donc avant, pendant et après alors.
Exactement. Voilà. On prend de plus en plus de malades polypathologiques avec beaucoup de traitements, des choses comme ça. Et on est devenu un peu les chefs d'orchestre du parcours périopératoire parce que ces malades, faut les préparer à la chirurgie. On les opère, ça fait partie de notre métier, et on les suit en post-opératoire.
Ouais,
donc tous ces patients ont des spécificités qu'il faut prendre en compte. Et en particulier lors de la consultation pré-anesthésique.
Bah oui, bien sûr, on parle de médecine personnalisée, évidemment.
Exactement.
Alors, Moebius donc, est là pour faciliter le travail donc, et rendre un peu plus fiable, c'est ça, ce bilan préopératoire ?
Alors, en fait, la consultation d'anesthésie en France est obligatoire depuis 1994. Et donc, on voit tous les patients en consultation. Et le principe de Moebius, c'est que l'anesthésiste continue à faire sa consultation comme il la faisait avant. Et nous, on va essayer d'amener de la valeur ajoutée à toutes les données que l'anesthésiste aura rentrées pendant sa consultation.
C'est-à-dire que tous les examens qu'aura fait préalablement
les
examens,
ce que le patient va nous dire, ce qu'on va mesurer, ce qu'on va trouver dans le dossier médical. Et tout ça, en fait, on va essayer d'appliquer ni plus ni moins que les données actuelles de la science pour structurer les parcours de soins. Il y a 20 ans, on faisait des protocoles. C'est-à-dire que chaque malade était pris en charge de la même manière. Ouais. Et en 2024, je pense que les patients doivent être pris en charge selon leurs spécificités.
D'accord. Donc, que fait le patient, donc, le patient par rapport à un
Moebius? Pour le patient, ça ne change absolument rien, d'accord. Pour le praticien, on essaie de moins
changer...
Oui, comme d'habitude, il remplit son questionnaire. On a une version du questionnaire qui peut être informatisée, qui nous permet de récupérer de la donnée beaucoup plus structurée. Et puis, pendant la consultation pré-anesthésique, on a des logiciels partenaires, le logiciel de Biomédical en particulier, qui... où l'anesthésiste va rentrer les données de son patient et puis va déterminer le bon parcours pour son patient. C'est-à-dire que ça peut être très bien des solutions avant l'anesthésie pour le préparer physiquement, pour l'aider à arrêter de fumer, pour faire plein de choses comme ça. Pendant l'opération, sur du monitorage, on va essayer de le surveiller correctement. Et puis après l'opération, pour tous les problèmes des traitements après l'opération et puis des risques qu'on a calculés avant l'opération.
En quelque sorte, vous établissez quand même un score de risque.
Ah oui, exactement. On est basé sur des scores de risque et on fait essentiellement de la science. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé des scores de risque. On contente d'appliquer des scores de risque, mais des scores de risque qui sont très difficiles au quotidien pour un anesthésiste dans un bureau de consultation à calculer parce qu'ils ont beaucoup de variables et on n'a pas le temps physique de le faire.
Vous dites que vous êtes le Waze de l'anesthésie, ça veut dire quoi ?
On essaie de montrer à l'anesthésiste la bonne route. On n'empêche pas de passer selon les routes qu'il connaît habituellement. Mais on va essayer de lui trouver la route la plus sûre, qui ne sera pas forcément la plus courte, mais surtout la plus sûre pour le patient.
Donc à éviter les radars, évidemment.
On n'a pas vraiment de radar dans notre profession, mais les sorties de route.
Donc vous disiez, donc ça ne s'arrête pas évidemment au bilan préopératoire, mais vous allez agir aussi sur le devenir, peut-être sur le pronostic aussi du patient post-opératoire.
Très très difficile à mesurer. Oui. On espère qu'en améliorant la prise en charge, en optimisant chaque petite étape de la prise en charge de nos patients, on va diminuer les complications. Il ne faut pas oublier que les complications post-opératoires, c'est la troisième cause de mortalité dans le monde.
Alors, on parle beaucoup d'interopérabilité. Hein. Est-ce que votre logiciel s'intègre facilement dans l'équipement informatique de l'anesthésiste ?
Alors, c'est notre principal problème lors des implémentations. C'est-à-dire que le dossier, l'information médicale est très, très, très mal structurée dans les dossiers, dans les DPI. Et donc, le but du jeu, c'est d'aller y trouver de l'information médicale structurée, soit de manière traditionnelle, en faisant des choses du mapping traditionnel, soit par de l'IA, qui va aller chercher de l'information médicale structurée dans ces dossiers.
Alors, on est sur BFM Business. Hein. Quel est votre business model ?
Notre business model, c'est qu'on est partenaire de logiciels et d'éditeurs de logiciels. On n'est pas éditeur d'une solution nous-mêmes. Et que, en fait, via ce partenariat, avec le logiciel biomédical de Diane Anesthésie, on est dans tous les nouveaux centres Diane Anesthésie. Donc, on est en train d'implémenter 2 centres en France et avec une dizaine ailleurs. Et puis, une vision européenne. Et peut-être un jour aux États-Unis.
Eh bien, merci beaucoup Romain Guillot, président de Moebius. On va à présent accueillir Hugo Dine qui dirige Naox Technologies. Hugo Dine, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes passé par Polytechnique, par Berkeley University et vous dirigez Naox Technologies que vous avez cofondé en 2018.
Oui, c'est bien ça.
Alors vous m'avez appris une chose quand même, c'est que Naox, ça voulait dire
cerveau en vietnamien.
Ça voulait dire cerveau en vietnamien. Donc ça tombe bien puisque vous vous intéressez aux maladies neurologiques, notamment l'épilepsie, les troubles du sommeil. Parmi donc les outils diagnostiques du comportement un peu du cérébral, il y a l'électroencéphalogramme. C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Mais c'est vrai que c'est pas un examen très facile à effectuer ?
L'électroencéphalogramme est un examen, comme vous savez, qui nécessite en fait l'intervention d'un technicien spécialisé pour pouvoir installer les électrodes, pour pouvoir coller même les électrodes sur le scalp. Donc ça peut prendre jusqu'à 30 minutes pour installer juste les électrodes. Ce qui fait que l'appareil d'électroencéphalogramme ne se trouve que à l'hôpital et ce qui freine l'accès à cet examen aux patients qui en ont besoin.
Oui, ça ne peut pas être ambulatoire.
Ça ne peut pas être ambulatoire.
Ouais, et puis c'est un espèce de one shot, donc c'est à un moment donné...
C'est une photographie de l'activité électrique du cerveau du patient. Ouais. À un instant donnée où il passe à l'hôpital.
On pourrait comparer un électrocardiogramme et un Holter ECG par exemple.
Exactement. Donc là, l'idée de NAOX, c'est de réinventer en fait le Holter de EEG, d'électroencéphalogramme.
Ouais. Vous voulez démocratiser l'électroencéphalogramme. Alors de quelle façon alors justement?
Alors justement, donc chez NAOX, nous réalisons un électroencéphalogramme que nous intégrons dans un objet du quotidien qui sont des écouteurs. Alors pourquoi des écouteurs? Parce qu'en fait, c'est un objet aujourd'hui qui est très commun. Tout le monde sait comment porter les écouteurs, comment les installer dans le canal auditif.
Mais ce sont des écouteurs spécifiques, évidemment.
C'est spécifique parce qu'on intègre en fait, en plus, notre capteur qui passivement va aller récolter l'activité cérébrale du patient.
D'accord. Et ça, pendant combien de temps? Pendant une durée illimitée?
L'idée, c'est qu'à l'hôpital, par exemple, nous faisons, enfin, les spécialistes font des EEG. Parfois qui peut aller jusqu'à des journées, jusqu'à des semaines même. Mais l'examen le plus commun, c'est un examen de 30 minutes. Donc, l'idée de NAOX, c'est de pouvoir réaliser un examen simple à domicile du patient pendant quelques heures de port par jour par le patient à domicile. Et nous essayons d'avoir de la donnée longitudinale. Nous ne remplaçons pas le EEG de l'hôpital, mais nous allons plutôt aller détecter des anomalies. D'accord. Avant le diagnostic complet avec un EEG.
C'est le patient qui décide de mettre ses écouteurs ou c'est vous qui lui donnez
Des consignes? C'est plutôt son neurologue ou son médecin traitant qui va proposer le port de ce Holter de nouvelle génération. Donc ça dépend de la question médicale. La question souvent qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une épilepsie ou non par exemple. Eh ben le médecin va pouvoir donner nos écouteurs pour que le patient puisse porter dans la vie de tous les jours et de remonter les données nécessaires au médecin pour qu'il puisse apposer son diagnostic.
D'accord, donc les écouteurs sont des écouteurs connectés, évidemment, j'imagine.
C'est des écouteurs connectés, donc on va pouvoir écouter de la musique avec, on va pouvoir même dormir avec ces écouteurs. Donc il y a des gens qui portent des boules-caisses pour aller se coucher, ben, c'est la même chose. Donc on essaye de proposer ici quelque chose d'ergonomiquement intéressant pour un usage de tous les jours.
Oui, donc évidemment, vous allez étudier donc certaines maladies neurologiques, en particulier, c'est ça, l'épilepsie?
Oui. Donc il faut savoir que 60% de l'utilisation de l'EEG aujourd'hui en service neurologie est destinée au diagnostic de l'épilepsie.
D'accord.
Mais toutefois, 99% des patients épileptiques n'ont jamais eu un EEG avec une crise d'épilepsie dessus. Donc ça veut dire qu'il y a il faut vraiment tomber dessus. Ouais. Donc le gap il est énorme et l'idée ici c'est de proposer cette solution dans un premier temps aux patients souffrant d'épilepsie avant d'aller penser à d'autres pathologies.
Est-ce que vous avez eu des écouteurs déjà qui ont écouté juste une crise d'épilepsie?
Alors nous avons quelques études cliniques en Europe qui ont été lancées, donc même en France avec la fondation Rothschild. Et nous arrivons aujourd'hui, on sait qu'on est capable de détecter des crises d'épilepsie.
Alors j'imagine que ces écouteurs peuvent servir aussi à d'autres pathologies, notamment les troubles du sommeil.
Oui, donc usage en fait de l'EEG est un usage qui compose en fait un examen qui s'appelle le polysomnographe. C'est un examen qui fait référence
pour détecter
l'apnée du sommeil, mais aussi d'autres troubles du sommeil. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on néglige en fait la partie neurologie des troubles du sommeil parce que on n'a pas de moyens de réaliser un EEG simple à l'extérieur de l'hôpital. Et c'est là où nous intervenons.
Donc, vous êtes un véritable dispositif médical.
Nous sommes un dispositif médical.
Vous attendez une certification, vous l'avez?
Nous attendons une certification à la fois CE et aussi FDA aux États-Unis.
D'accord. Très rapidement, donc votre avenir, c'est d'implémenter ces écouteurs sur, par exemple, des appareils auditifs?
Oui, donc nous essayons en fait de trouver aussi des partenaires pour pouvoir démocratiser le plus vite possible donc des appareils auditifs ou des tout simplement des écouteurs en public ou tout ce qui se porte dans l'oreille. Donc on fait un appel à des partenaires potentiels pour venir nous voir.
Eh ben j'imagine on est content de vous offrir cette vitrine. Voilà, c'est un appel aux partenaires. Merci beaucoup Hugo Dine, merci beaucoup président de NAOX, non pas NAOX, NAOX.
NAOX.
Voilà, on va finir en beauté, c'est le cas de dire, avec Anne Vandeux-Candelaer qui est directrice marketing chez Terrayon. Anne Vandeux-Candelaer, bonjour.
Bonjour.
Vous savez, j'ai dit du premier coup, hein, votre
Bravo.
Nom.
Bravo.
Vous êtes directrice marketing chez Terrayon. Terrayon, ce n'est pas franchement une start-up?
Non, mais on dit souvent que c'est une start-up centenaire, en fait, puisque finalement...
Toujours jeune, quoi.
On se réinvente sans cesse et on n'arrête pas de diversifier et d'innover. Mmh.
Alors, vous êtes connu évidemment pour les pèses personnes, hein, les balances, mais vous continuez quand même dans cette voie, mais vous avez pris quand même le chemin de la santé connectée et du bien-être.
Tout à fait. En fait, aujourd'hui, notre mission, elle est vraiment santé, bien-être au quotidien pour les Français, et on va les accompagner avec tout un écosystème de produits, finalement, du pèse personne, du tensiomètre, du thermomètre, mais aussi des appareils d'aide à la santé.
Oui, on va y revenir. Donc, vous êtes présent à Santexpo, ici. Pourtant, vous êtes plus B2C que B2B, non ?
Tout à fait. Effectivement, notre site principal, elle est B2C aujourd'hui. Mais on
voudrait... Donc, le consommateur, oui.
Le consommateur final. Mmh. Mais on aimerait se développer aussi auprès des médecins qui sont prescripteurs et qui, pour jouer aussi tout un rôle de prévention avant ou après les rendez-vous avec les médecins. Et en fait, on a aussi tout un écosystème avec une application pour suivre toutes ces données de santé au quotidien, accompagnées ou pas de son médecin.
Alors, vous, avant de parler des autres produits, hein, le pèse personne, ça n'a plus rien à voir avec la colonne mécanique d'antan. On montait dessus et puis on déplaçait le curseur. Oui.
Exactement.
Qu'est-ce qu'ils ont de plus maintenant les...
Oui, depuis qu'on a inventé le pèse personne en 1950, c'est vrai qu'on a, on a développé maintenant des pèse personnes connectées. Donc vous allez pouvoir suivre avec l'impédance-métrie vos différentes masses, mais surtout vous allez les suivre dans votre application qui s'appelle MyHealth. Donc c'est une application qu'on a développée en France avec des données hébergées en France.
Application MyHealth, c'est ça.
Exactement, ouais. Avec plus de 600 000 utilisateurs aujourd'hui. Et en fait, on peut suivre toutes ces différentes masses et avec des courbes de suivi et voir un peu ses progrès et pouvoir un petit peu analyser selon ses objectifs.
Donc en fonction de différents critères, paramètres.
Exactement, donc les masses.
Le poids, bien sûr.
Mais... Le poids, l'IMC, la masse graisseuse, la masse musculaire, l'indice de graisse viscérale aussi, qui est très intéressant à suivre quand on a des soucis de surpoids.
Donc après cet objet connu, après le pèse personne, évidemment vous êtes sur d'autres terrains, notamment
fait.
Le sommeil avec la luminothérapie.
Tout à fait, en fait pour nous il y a à la fois le mieux-être, le mieux manger et le mieux dormir. En fait c'est un vrai écosystème pour se sentir bien et en bonne santé. Donc sur la partie mieux dormir, effectivement on a des produits de luminothérapie qui vont utiliser notamment la lumière rouge et la cohérence
cardiaque.
Pour
s'endormir et pour se réveiller
Pour s'endormir, la lumière rouge qui va aider à ne pas bloquer la sécrétion de mélatonine, et au réveil la lumière bleue qui va simuler l'aube et bloquer la sécrétion
et un réveil,
de mélatonine.
En douceur.
Exactement.
On dit que c'est pas bien de regarder ses écrans juste avant de dormir.
Tout à fait, puisque ça va générer de la lumière bleue qui va bloquer la mélatonine, l'hormone du sommeil.
Pas mal de gens qui vont pas être contents de savoir ça quand même. Alors donc le sommeil, vous avez aussi en cette année donc de JO, donc vous avez des appareils aussi pour le massage.
Tout à fait, et merci de citer les JO. Effectivement, on est très fiers d'être fournisseur officiel, supporteur officiel des JO pour la pesée des athlètes pendant les JO. Et effectivement, on accompagne aussi dans l'activité physique, soit en échauffement, soit en récupération musculaire, avec des appareils de massage, des pistolets de massage notamment, qui sont très efficaces en récupération.
Oui, on est loin du massage thaïlandais, c'est vraiment le massage sportif.
Exactement.
Aussi bien avant l'exercice qu'après l'exercice, c'est bien
tout
ça.
Tout à fait. Et même les kinés aujourd'hui recommandent ce type d'appareil en complément finalement d'une séance chez le kiné.
Oui, vous avez d'autres appareils pour finir, un appareil que j'aurais oublié.
Oui, alors peut-être citer aussi donc effectivement tout ce qui est appareil de massage détente. Là, on est plus, on va dire, dans de la détente, de la relaxation, au niveau du cou, des cervicales, des lombaires, du ventre, pour être dans une détente globale. Et sur tout ce qui est mieux manger, on a aussi tout un tas d'appareils pour faire du fait maison et finalement mieux manger au quotidien.
Alors votre avenir, c'est l'internationalisation ?
Alors,
c'est pour l'instant en franco-français, non ?
Oui, effectivement, on a l'essentiel du business en France aujourd'hui, mais l'international, bien sûr, est un axe de développement. L'Europe en premier lieu, puisqu'on a une notoriété aussi qui est plutôt autour de nos voisins européens, mais bien sûr, plein d'opportunités à l'étranger aussi.
Bien, merci beaucoup Anne Vandecandelaire, je l'ai bien dit.
Oui.
Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci encore à notre partenaire BPI France. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé.